Je vais donc passer la parole maintenant à ma collègue Aïcha Oujaha et ensuite Julie Arnaud, qui vont nous parler de la, des restes de Kébibat au Maroc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des fossiles les plus humains, les premiers découverts, sinon les plus anciens géologiquement, les premiers découverts.
Bonjour à tous. Donc, l'homme de Rabat Kébibat, c'est vrai que c'est un fossile ancien, mais ancien parce qu'il a été découvert dans les années 30. La carrière de Kébibat est située au nord de Rabat, sur la côte atlantique, qui est très proche de plusieurs sites du littoral de Rabat et Mara, donc des sites qui sont bien connus. La carrière de Kébibat, elle a été, les fossiles, ils ont été découverts par Jean Marcet dans les années 30. Et la découverte, elle a été faite après une explosion, bien sûr, à la dynamite. Et vous allez comprendre comment les fossiles, pourquoi leur conservation est assez précaire. Donc, dans les années entre 1934 et 1984, Valois, Sauce et Saban, ils ont fait plusieurs publications sur ces fossiles. Et en 2010, une équipe maroco-française de géologues qui essaye de revoir la dynamique de formation des dunes littorales dans la partie nord du Maroc. Donc, ils ont commencé par la région de Témara et, par chance, ils ont commencé par le site de Kébibat. Et c'est à partir de leurs travaux, leurs résultats, qu'on a pensé à revoir et à réactualiser ces fossiles de Kébibat. Alors, la carrière de Kébibat est une carrière qui est formée par plusieurs unités. Donc, on a trois séquences géomorphologiques. Et dans ces séquences, nous avons plusieurs unités. Et les fossiles de Kébibat, ils ont été découverts dans le niveau supérieur de l'unité 2, juste en dessous du paléosol. Ceci dit, on ne sait pas vraiment exactement leur emplacement. Donc, plus ou moins, on sait qu'ils proviennent du niveau supérieur de l'unité 2 de la séquence 2. Jean Marcet, donc, il avait recueilli 23 fragments crâniens, un fragment de maxillaire et un fragment de mandibule. Donc, tous ces fragments, ils étaient éclatés, bien sûr. Et donc, Roger Saban, les a reconstitués. Et donc, on retrouve deux fragments de pariétaux droits, un fragment de pariétal gauche et un autre fragment qui n'a pas été malheureusement recollé avec le morceau pariétal gauche et un fragment de l'occipital. Aussi, un maxillaire qui n'est pas complet, malheureusement on a juste une partie, la partie gauche et la partie droite, il est inséré dans une gongue en calcarénite. Et bien sûr, une mandibule qui est incomplète. Alors, la mandibule et les fragments crâniens, ils ont été scannés grâce à la plateforme du Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, on a essayé de revoir un peu toutes les structures internes des ossements. Malheureusement, pour les fragments crâniens, il s'est avéré que la paroi crânienne est complètement minéralisée, donc on ne voit absolument rien, rien du tout. Donc on se rabat sur la partie épaisseur, l'épaisseur de l'os, et on a une épaisseur de l'os qui est un peu plus importante au niveau de la partie interne. Donc, on a l'épaississement de l'os au niveau de la bosse pariétale, qui est très importante, et l'emplacement du lobule marginal du gratiolet. Et ceci sur le pariétal gauche. Alors, on le voit très bien ici, aussi bien sur le pariétal droit que sur le pariétal gauche, et sachant que les épaisseurs des os varient pour les pariétaux entre 5 et 8 centimètres. Millimètres, oui. Excuse-moi. Donc, on a relevé de cette étude que les rameaux antérieurs sont beaucoup plus développés que les postérieurs, les rameaux de réseau méninger. Et bien sûr, on a une présence de nombreuses ramifications. Donc, c'est un caractère quand même qui est dérivé forme Homo sapiens. Pour l'occipital, donc au niveau de l'occipital, on a l'absence, bien sûr, du torus occipital. L'épaisseur de l'os, elle est beaucoup plus importante au niveau des crêtes occipitales internes. Et on a une asymétrie entre les lobes occipitaux, avec un lobe occipital gauche qui est beaucoup plus projeté. Et donc, on a une pétalia occipitale gauche. Donc, parmi ces caractères, on n'a pas de caractère très archaïque, on a des caractères dérivés. Là, on a absence du torus occipital, ce qui fait qu'on a un occipital qui est plus ou moins arrondi, avec une convexité régulière de la courbure sagittale. Et je laisse la parole à Julie.
Bonjour. Donc, pour ce qui est de la mandibule de Kébibat, comme vous avez vu dans les photos précédentes, par rapport aux fragments crâniens, on avait déjà un petit peu plus de matière sur lesquelles travailler. Donc, nous avons décidé d'utiliser différentes analyses pour pouvoir avoir toutes les informations possibles sur ce fragment de mandibule. Donc, nous avons d'abord fait une analyse morphométrique linéaire, c'est-à-dire les mesures classiques, à peu près une douzaine, parce que donc, la mandibule n'est pas complète, on avait juste la partie antérieure et pas les rameaux, par exemple. Et ensuite, nous avons fait une comparaison des contours symphysaires par analyse elliptique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette analyse très compliquée, mais très performante. Alors, cette technique permet, l'analyse elliptique de Fourier, permet d'analyser et de comparer des contours entre eux. Et des contours qui peuvent être très similaires. Alors, pourquoi nous avons choisi la partie de la symphyse, donc la partie sagittale de la mandibule, hein, de votre mandibule, parce qu'il faut savoir que la mandibule est un os assez compliqué, et c'est un os très variable aussi au sein d'une même population. C'est-à-dire que là, parmi nous, dans cette salle, toutes nos mandibules sont différentes, donc si vous regardez vos voisins, vous allez bien vous rendre compte que vous allez retrouver des personnes avec des mentons plus projetés, moins projetés, etc. Mais une des caractéristiques de notre espèce, donc l'Homo sapiens, c'est la présence de ce menton qui est justement plus ou moins projeté. C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier vraiment cette partie et de comparer les différentes projections de ce menton afin de pouvoir resituer un peu Rabat, Kébibat, dans cette variabilité mandibulaire des hommes modernes et des hommes fossiles. En sachant qu'à l'époque, quand nous avons commencé l'analyse de la mandibule de Rabat, nous n'avions pas encore de date précise. Nous savions à peu près qu'elle se situait entre 300 000 ans. Les datations sont arrivées après, et donc à 146 000 ans. Donc, pour cela, nous avons placé trois points osséologiques sur la mandibule. Le premier, entre les deux incisives centrales. Le deuxième, entre les deux fosses dites gastriques ici. Et le troisième, sur la partie interne, entre les deux incisives centrales. Donc, c'est des points qu'on retrouve sur toutes les mandibules et qui sont assez faciles à placer. Et ensuite, nous avons placé automatiquement une série de semi-landmark, donc de semi-point ostéologique, équidistant sur le contour. Donc, nous avons fait cette opération sur une série de mandibules, donc une collection de références assez large, composée de près de 120 individus de différentes espèces humaines, fossiles, et aussi de différentes régions géographiques. Donc, dans cette collection, nous avions 7 Homo heidelbergensis, donc, ou hommes du Pléistocène moyen, 19 Néandertal, 74 hommes modernes, dont 42 provenant du Maroc de période ibéro-maurusienne et 7 de période plus récente islamique. Et enfin, 25 individus homo sapiens d'un site près de Paris, néolithique. Tous les contours de nos individus ont été superposés sur les 3 points que je vous ai décrits précédemment, afin donc de voir toutes les différences entre cette projection de la symphyse de la partie antérieure. Donc, pour ce qui est des résultats, les résultats concernant l'analyse linéaire, donc ici, je vous montre seulement la hauteur au foramen mentonier, donc c'est une structure, un foramen qui est sur le corps mandibulaire, sur la partie latérale du corps mandibulaire, et donc l'auteur et l'épaisseur à ce niveau-là, donc pour avoir une idée de l'indice de robustesse. Donc, de nos 3 grands groupes, donc vous avez en gris les Pléistocènes moyens, les Néandertals en vert, et ici en gris plus clair, les Homo sapiens au sens large. Okay. Et dans ce cadre-là, nous voyons que Kebibat est inséré, on va dire parfaitement entre guillemets, dans la variabilité linéaire des Néandertaliens. Okay. Donc, grosso modo, une épaisseur assez importante du corps mandibulaire. Pour ce qui est justement donc, de l'analyse du profil symphysaire, donc, pour vous expliquer assez rapidement à quoi correspond ce graphique, donc, vous pouvez voir ici différentes morphologies de ce profil symphysaire. Et vous voyez ici, donc, cette partie-là, c'est la partie antérieure, et vous voyez bien ici le menton projeté. Donc, si je me déplace de ce sens-là, dans ce sens-là, vous voyez un menton projeté vers l'avant et vers le bas. Okay, donc, vers ici, et clairement, nous avons tous les hommes modernes qui tendent à avoir cette morphologie-là. À l'inverse, à droite donc, du graphique, nous avons une morphologie plus robuste, avec un profil antérieur plutôt fuyant, et un profil interne, bombé et avec un léger planum alvéolaire. Planum alvéolaire, une structure plutôt plésiomorphe qu'on retrouve par exemple chez l'Homo erectus. Et là, sur ce graphique, donc dans cette configuration, donc dans ce sens-là, et dans ce sens-là, nous avons une projection inférieure donc du menton et pour ce qui est des individus qui se situent en bas du graphique, un profil symphysaire plutôt régulier et une épaisseur régulière de la partie du haut en bas. Et dans cette configuration, nous voyons bien les 3 groupes séparés, on va dire plus ou moins. Donc tous les Homo sapiens sont plutôt localisés à gauche du graphique et les hommes du Pléistocène moyen à droite du graphique. Et au milieu, nous avons les hommes de Néandertal qui superposent ces 2 groupes. Et dans cette configuration, nous voyons que Kebibat se trouve dans la variabilité des hommes modernes, mais aussi très proche de la variabilité des hommes de Néandertal et très éloignée de la variabilité des Homo heidelbergensis, donc des hommes du Pléistocène moyen.
Donc j'enchaîne. Donc ce qui ressort de cette étude, c'est que nous avons retrouvé un mélange de caractères. On a quelques caractères plésiomorphes qui sont hérités. Donc on n'a pas de menton, on a l'absence de menton. On a une robustesse qui est assez importante du corps mandibulaire et, bien sûr, l'orientation du corps mandibulaire qui s'approche beaucoup plus des Néandertaliens que des Homo sapiens. Les caractères dérivés, donc, sur les ocraniens, nous avons des caractères beaucoup plus modernes, comme la vascularisation du réseau méningé antérieur qui est assez important. On a une dépression encéphalique, surtout au niveau une dépression encéphalique qui sont prononcées avec un développement des circonvolutions pariétales inférieures, l'absence du torus occipital et bien sûr la courbure de l'occipital sagittal qui est régulière. Donc on a ni chignon ni pincement occipital. Donc ce qui est intéressant dans ce sens que pour la compréhension de la mise en place de ces caractères dérivés chez les Homo sapiens. Donc sur les mandibules, nous avons sur la mandibule de Kebibat, nous avons une symphyse qui est plus ou moins verticale, donc on n'a pas de menton, qui est complètement différente des fossiles du Pléistocène moyen. Donc, et là, on a les deux mandibules de la carrière Thomas, et bien sûr, aussi différente du fossile de Jebel Erhout, qui présente quand même une éminence montagnière qui est prononcée. En ce qui concerne la dentition, donc sur la mandibule, nous avons quand même une certaine série de dents. Nous ne l'avons pas étudiée, pas du tout. On a une éruption complète, bien sûr, de la troisième molaire, sur le maxillaire, pardon, et celle de la mandibule, elle est en cours de l'éruption, ce qui étant, on n'a pas d'usure sur les dents, ce qui suggère que nous avons un individu quand même qui est relativement jeune. L'étude de la dentition est en cours, donc elle est assez laborieuse, et donc elle est en cours aussi bien pour les dents mandibulaires que sur les dents maxillaires. Et je remercie là Jean-Jacques Hublin qui m'a permis d'apprendre la méthodologie pour cette segmentation qui n'est pas facile. Donc, en conclusion, le site de Kebibat, il s'intègre dans le débat général d'une dynamique complexe du peuplement nord-africain, bien sûr, et ceci grâce aux découvertes de Jebel Erhout, donc ce qui met en cause pas mal d'idées déjà connues. Donc il semble que Kebibat, qui est daté d'à peu près 145 000 ans, et là c'est vraiment la datation de l'unité 2 du secte de la séquence 2, la datation de la séquence entière est en cours, donc on aura un peu plus de précision, et donc qui est morphologiquement beaucoup plus, je ne dirais pas beaucoup, mais plus archaïque que Erhout, qui est daté de 300 000 ans. Donc on a beaucoup de choses à faire. Donc ce qu'on projette de faire d'abord, c'est finaliser la segmentation des dents, qui pose un petit peu problème parce qu'on a plusieurs dents qui sont fragmentées, et bien sûr, réévaluer tous les fossiles qui sont disponibles dans la région afin d'argumenter cette dynamique du peuplement de l'Afrique du Nord. Et je vous remercie.